Bonjour, heureux de vous retrouver. Merci d'écouter le grand face-à-face de France Inter tous les samedis au sommaire de l'émission. Dans un instant, le duel Natacha Polony-Gilles Finkelstein pour revenir sur quelques-uns des temps forts de la semaine. Et puis en débat ce samedi, les réacs ont-ils gagné la bataille des idées? Celle qui pose la question est l'une des figures de proue du renouveau conservateur. Elle est jeune journaliste au Figaro, essayiste, passionnée par le débat d'idées et même par la guerre des idées. C'est d'ailleurs le titre de son dernier livre, livre que publie Eugénie Bastier, une enquête au cœur de l'intelligentsia française, et je la cite toujours, un essai engagé où elle décrit les grandes lignes de front de ce champ de bataille où l'on se bat à coups d'idées, de livres, de tribunes, parfois même de tweets ou d'interventions sur des plateaux de télé. Eugénie Bastier sera l'invitée du grand face-à-face tout à l'heure, mais d'abord le duel.
France Inter, le grand face-à-face, Ali Badou.
Le duel entre la directrice de Marianne, Natacha Polony, et le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Salut les amis.
Bonjour.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver. Et pour commencer le duel, ça.
L'installation médiatique et sondagière du duel Macron-Le Pen, ça a un seul objectif, priver les Français de cette élection. Et je vais vous dire, le Front Républicain, c'est pas un choix politique. Le Front Républicain, c'est pas un choix de société. Le Front Républicain qui s'effrite au fil de l'eau depuis 2002, à un moment donné, on va bien avoir le contre-coup de ce non-choix et cette privation d'élection vis-à-vis des Français.
Je disais ça, comme on dit dans la trilogie freudienne, le ça, le moi et le surmoi. C'était la voix de Rachida Dati sur BFM cette semaine. On est à 14 mois de la présidentielle. Pourquoi vouloir vous arrêter sur le débat autour du Front Républicain, Gilles?
C'est pas tellement que je veuille m'y arrêter, c'est que c'est dans le débat public depuis maintenant de nombreuses semaines que vraisemblablement ça va y rester. Ça peut paraître surprenant de ce point de vue-là. Rachida Dati n'a pas tort au sens où il est bien prématuré de parler de Front Républicain alors qu'on est très loin encore de l'élection présidentielle. Le Front Républicain, si on essaie de résumer, c'est l'idée de faire barrage à l'extrême droite. Ça revient à épisodes réguliers dans notre histoire politique depuis les débuts de la Troisième République et ce qu'on a appelé la République des opportunistes, la République opportuniste, c'est-à-dire les républicains de gauche et les républicains de droite contre les monarchistes. Et ça s'est beaucoup installé au cœur du débat depuis maintenant une quarantaine d'années que le Front National s'est installé dans la vie publique.
Ouais.
L'efficacité du Front Républicain, et de ce point de vue-là aussi, Rachida Dati a raison, l'efficacité du Front Républicain s'est érodée. C'est un peu la loi des rendements décroissants, comme on dit en économie. Ça a été fissuré par des partis politiques, d'abord par les Républicains, il ne faut pas l'oublier, notamment, sans même remonter très loin, il y a 10 ans, lorsque pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, la position des Républicains de l'UMP de l'époque est devenue le nini, ni PS, ni Front National. Et on se souvient, on l'a oublié, mais Laurent Wauquiez, président de l'UMP, n'a pas appelé à voter pour Emmanuel Macron au deuxième tour de l'élection présidentielle. Ça a été fissuré aussi plus récemment par des partis de gauche, et notamment par la France Insoumise. Non seulement, là on s'en souvient sans doute davantage, au second tour de l'élection présidentielle, mais avant même, lorsque Jean-Luc Mélenchon a refusé de se prononcer dans des seconds tours qui opposaient le Parti Socialiste au Front National. Ça a été fissuré, pas seulement par les partis, ça a été fissuré aussi, il y a un lien entre les deux, par les électeurs. Par des électeurs de droite depuis longtemps, notamment lorsqu'il y avait des seconds tours entre le PS et le Front National. Mais encore une fois, à l'élection présidentielle de 2017, vous avez 20% des électeurs de François Fillon qui ont voté pour Marine Le Pen. Et c'est pour ça qu'on en reparle aujourd'hui, fissuré par des électeurs de gauche, lorsque l'on regarde les intentions de vote, avec des électeurs qui ne votent pas ou qui votent peu pour Marine Le Pen, mais qui sont très nombreux à s'abstenir, qui ne sont pas donc dans le barrage actif. Donc c'est un peu ce moment dans lequel on est, dans lequel il y a une banalisation de l'extrême droite à droite. Le débat avec Gérald Darmanin, de ce point de vue-là, en était une illustration.
Marine Le Pen, Gérald Darmanin sur France
2. Et où il y a en même temps une démonisation d'Emmanuel Macron à gauche, et c'est ça qui crée cette situation.
Natacha.
Je pense que le terme front républicain en lui-même commence à poser problème parce que quand on utilise un terme comme un mantra sans jamais définir exactement les prémices et ensuite les extensions de ce terme, ce n'est pas, enfin, on sort du cadre de la pensée. Gilles rappelait à l'instant que la question du front républicain se pose dès les débuts de la République, notamment contre les monarchistes. Ce qui nous permet de dire une chose, il n'y a de front républicain que quand on considère qu'il faut se battre contre des gens qui veulent abattre la République. Et l'un des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, c'est qu'une part des Français, et même des politiques de quelque bord que ce soit, considèrent désormais que si le Front National, enfin le Rassemblement National, est un parti politique qui pose problème, si ses idées sont à combattre, si son histoire même nous rappelle qu'il a été par certains côtés anti-républicain ou en tout cas fondé par des gens qui n'étaient pas républicains, ce parti a changé. Et que la question de savoir comment on combat ces idées ne peut plus se poser exactement de la même manière. Ça, c'est un des premiers points qui explique pourquoi on a cette fissuration, notamment chez les citoyens eux-mêmes, qui n'ont pas forcément l'impression qu'il faille, enfin, que la République soit en danger. Deuxième chose. En fait, ce front républicain a été utilisé ces dernières années pour orienter les choix des électeurs dès le premier tour. En gros, votez pour qui vous voulez, mais pas complètement quand même, puisque le but du vote, c'est d'empêcher le Rassemblement National d'arriver au pouvoir. Et du coup, à partir de là, toutes les élections ces dernières années sont orientées vers un but unique, déterminer qui va être le meilleur barrage contre le Rassemblement National. Or, vous avez des partis qui, à tort ou à raison, estime que ce qui fait monter le Rassemblement National, ce ne serait pas un éventuel basculement à l'extrême droite de l'opinion, mais un système économique qui détruit les classes populaires, les classes moyennes, qui en fait déstructure les protections construites tout au long des 19e et 20e siècles, les protections sociales, notamment toutes les conquêtes sociales et politiques. À partir de ce moment-là, la question de savoir s'il peut y avoir barrage contre le Rassemblement National en élisant des gens qui vont maintenir un système qui est celui qui explique la montée du Rassemblement National pose problème. Et je pense que c'était le raisonnement notamment de Jean-Luc Mélenchon lors du second tour de l'élection présidentielle de 2017. Et ce n'est pas illégitime comme raisonnement. Or, immédiatement, la réaction a été placée sur le plan moral et non plus politique. Jean-Luc Mélenchon était moralement coupable de ne pas choisir. C'est tout cela qu'il faut analyser avant de s'affoler de la destruction ou de l'effritement du Front républicain.
Gilles, encore un mot sur le sujet.
Oui, juste un mot. Qu'il y ait un vote qui soit de plus en plus, de la part de nombreux électeurs, un vote stratégique, c'est-à-dire qui regarde ce qu'est l'offre et en fonction de l'offre et de les candidats qu'ils veulent voir au second tour, ne choisissent pas nécessairement le candidat dont ils sont le plus proches. C'est vrai de plus en plus, et c'est vrai pas seulement en fonction du Front National. L'autre point sur lequel j'ai sans doute un désaccord avec Natacha, elle dit le terme pose problème. Je l'ai dit, le terme est sans doute moins efficace qu'il ne l'était. La question est de savoir, est-ce qu'il est légitime? Et là, je parle non plus seulement comme observateur, disons comme observateur engagé.
Oui.
Est-ce que, de mon point de vue, il demeure légitime de faire barrage au Front National? En d'autres termes, est-ce que l'on peut encore dire que le Front National est un parti et Marine Le Pen sont d'extrême droite? De ce point de vue-là, au-delà même de la question de leur histoire, on peut dire l'histoire, c'est l'histoire et qu'ils ont changé. Au-delà même du fait que, évidemment, Marine Le Pen, ce n'est pas Jean-Marie Le Pen. Malgré tout, lorsque l'on regarde d'une part les alliances qui sont celles de l'extrême droite en Europe, et lorsque l'on regarde davantage encore de près ce que demeure le programme du Front National, notamment sur les questions d'immigration, mais pas seulement sur les questions d'immigration, quand on regarde ce qu'est son rapport au droit, son rapport à l'état de droit, son rapport à la hiérarchie des normes, je pense que il demeure un parti d'extrême droite, et c'est ce que pense la majorité des Français. 74% des Français disent c'est un parti d'extrême droite, et on est à plus de 80% chez les électeurs de gauche, Après, si on veut éviter de se trouver dans cette situation, eh ben, il faut en tirer les conséquences en termes d'offres politiques alternatives.
Natacha Polony, avant de passer au prochain sujet.
Oui, juste un point pour dire que je rejoins Gilles sur ce point-là. En effet, je pense que le Rassemblement National est un parti d'extrême droite et qu'il est en train actuellement et depuis quelques mois de se recentrer sur cette dimension d'extrême droite. Donc si ça, de ce point de vue-là, c'est totalement indéniable. Et je pense également que l'élection de Marine Le Pen à la présidence de la République mettrait le pays dans un état plus que problématique, même si je ne crois pas qu'elle veuille abattre la République. C'est plus compliqué que ça. En revanche, j'y insiste, la question est de savoir, non pas comment on empêche... Enfin, je veux dire, d'un point de vue démocratique, d'accord, la question n'est pas de savoir si on empêche à tout prix son arrivée, mais comment on fait en sorte que des gens n'aient pas envie de voter pour ces idées-là, dans la mesure où je suis persuadée que les gens qui votent pour le Rassemblement National n'adhèrent pas à ces idées d'extrême droite. Et c'est là où je pense qu'il faut focaliser l'analyse.
Le duel continue.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Dans les années 80, le patrimoine des jeunes était nettement plus élevé que celui des personnes plus âgées. Aujourd'hui, c'est l'inverse et dans des proportions qui vont à peu près de 20 à 10. Mmh. C'est de l'argent qui dort en attendant de former un héritage. C'est quand même dommage au moment où on va avoir besoin de repartir tous.
On entendait Laurence Boone, chef économiste de l'OCDE, qui était l'invité du grand entretien de la matinale de France Inter jeudi. Dans l'actualité, une quarantaine de députés, les Républicains, ont déposé mardi une proposition de loi pour assouplir les conditions de donation intrafamiliale. Et c'est une piste qu'envisage par ailleurs de mettre en œuvre le ministre de l'Économie, notamment pour faire circuler l'épargne accumulée par les ménages pendant la crise que nous traversons et depuis le premier confinement. Notamment, c'est une question passionnante, celle de l'héritage évidemment, celle de l'épargne. Ce serait une bonne idée, Natacha ?
Écoutez, je pense qu'il faut d'abord rappeler le point fondamental. En effet, Bruno Le Maire a pour but, et le gouvernement dans son ensemble je pense, de relancer au plus vite la consommation. Et donc l'idée c'est de se dire, il y a cet argent qui dort, il va falloir qu'il soit consommé, et il sera consommé par les jeunes générations, et donc il faut faire circuler cela. Je pense que ça pose un problème énorme.
Ah oui.
Il y a eu, pendant le coronavirus, constitution de capital et d'épargne dans une dimension extrêmement importante. On peut envisager à la fin de l'année 2021 200 milliards d'épargne supplémentaire.
Selon la Banque de France.
Voilà. Sauf que, il faut rappeler un chiffre. Je l'ai pour mars à août 2020. Je pense que c'est la même chose sur la suite de l'année 2020. 70% du surplus d'épargne a été constitué par les 20% de ménages les plus riches.
Oui.
En revanche, les 20% de ménages les moins riches ont légèrement désépargné, c'est-à-dire qu'en gros, ils ont dû taper dans leur peu de capital pour manger.
Et ils n'ont rien mis
de
côté.
Voilà, donc on a une inégalité en capital, alors même que le gouvernement, par ses choix de chômage partiel tout à fait légitimes, permettait de limiter les inégalités de revenus et a permis comme ça de limiter les dégâts. Donc ce qui a explosé, c'est l'inégalité en patrimoine. Donc ce choix de faciliter les donations va certes relancer la croissance, mais va la relancer d'une manière qui, évidemment, ne corrigera absolument pas ce creusement des inégalités de patrimoine. Et c'est un problème d'autant plus important que, en fait, 80% des successions déjà sont non taxables du fait des abattements multiples. Donc ça veut dire qu'on ne redistribue pas. C'est très bien de redistribuer entre les générations, mais redistribuer au sein des générations serait pas mal, d'autant plus que ce déstockage de l'épargne, pour relancer la croissance, va poser un autre problème, c'est qu'en général... En France, depuis que la France est un pays désindustrialisé, quand on relance la croissance, c'est synonyme d'augmentation des importations. Donc ça ne crée pas forcément plus d'emplois. Donc il me semble que ce qui serait intéressant, c'est de réfléchir à la façon d'orienter l'épargne vers la création d'emplois et de richesses en France et vers la redistribution. Ce ne sera pas le cas.
Gilles Finkelstein.
La question des donations, c'est une petite question dans une grande question. La grande question étant celle de l'ensemble de la fiscalité sur les transmissions, qu'elles soient avant le décès, c'est les donations, ou après le décès, ce sont les successions qui représentent 85% de l'ensemble de la fiscalité sur les transmissions. Cette petite question qui est celle dans l'actualité, hein, celle des donations, elle se pose pour les raisons conjoncturelles qu'a évoqué Natacha Polony, c'est-à-dire ce surcroît d'épargne et la question de savoir comment on fait pour le mobiliser, pour le réinjecter dans l'économie. Mais elle se pose aussi au-delà de la conjoncture pour des raisons structurelles qui sont liées au fait qu'avec l'augmentation de l'espérance de vie, l'âge de la transmission se fait de plus en plus tard, ouais. Et que, en gros, de plus en plus, ce sont les arrière-grands-parents qui transmettent à des grands-parents. Et donc, l'idée d'essayer d'anticiper ces transmissions, c'est une idée qui est légitime. Il faut savoir que beaucoup déjà a été fait, et que le régime fiscal pour les donations est déjà très favorable. Et donc, on peut déjà donner beaucoup, quand on a de l'argent, à ses enfants et à ses petits-enfants. Est-ce que des mesures supplémentaires pourraient être nécessaires. Je crains qu'elles risquent soit de n'avoir aucun effet si on essaye d'élargir les dispositifs qui ont été adoptés l'année dernière, c'est-à-dire de flécher vers un certain nombre d'utilisations obligatoires ces épargnes, ou un effet pervers qui serait ce que Natacha a évoqué, c'est-à-dire une augmentation des inégalités si on va vers un dispositif de type de celui que Nicolas Sarkozy avait proposé. Ça, c'est la petite question. Si on dit un mot maintenant de la grande question, c'est-à-dire celle de la transmission dans son ensemble. Pourquoi je crois que c'est une des plus grandes questions? C'est d'abord pour une raison philosophique, on est au point de convergence où se nouent les inégalités de conditions, les inégalités de revenus et les inégalités de patrimoine, et les inégalités des chances, où vous avez des enfants, selon la famille dont ils sont issus, qui n'ont pas les mêmes chances dans la vie. À cela s'ajoute une raison économique, c'est que ces inégalités de patrimoine sont beaucoup plus importantes que les inégalités de revenus. 10% des Français ont 50% du patrimoine, la moitié des Français n'ont aucun patrimoine. Qu'elles se sont davantage accrues ces dernières années. Et puis j'ajoute un dernier point qui est rarement évoqué, pour une raison sociétale, c'est qu'on a une législation qui date en gros du 19e siècle pour des familles du 21e siècle, qui sont souvent des familles recomposées. Et donc on a une fiscalité qui est totalement inadaptée.
Natacha Polony.
Oui, un dernier point pour revenir sur la question conjoncturelle, puisque je rejoins Gilles sur le problème structurel qui doit être pensé, qui est celui, en effet, du rapport entre patrimoine, égalité des chances, et où là entre en jeu la question par exemple de l'école et de la méritocratie comme facteur de redistribution des cartes, ce qui ne marche plus, etc. Mais sur la question conjoncturelle de cette surépargne, on peut juste rappeler ce qu'était la taxe Aristide Briand après la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire une taxe sur les bénéfices de guerre. En gros, il y a eu une taxe sur ceux qui s'étaient enrichis pendant la guerre. C'est aussi une façon de répondre au problème qu'a posé le coronavirus.
Pour vous, on pourrait taxer donc ceux qui se sont enrichis pendant la crise?
C'est-à-dire tenir compte du fait que certains ont profité de cette crise et leur demander une contribution. Ouais. On peut également flécher tout cela et reflécher la consommation par des chèques Made in France, ce qui permet de faire en sorte que la consommation serve la création d'emplois, de richesses et donc l'aide à ceux qui n'ont pas d'emploi, à ceux qui ont payé le plus cher tribut pendant cette crise.
Gilles.
Oui, d'un mot, je crois qu'on peut faire beaucoup mieux et qu'on risque de ne rien faire du tout. On peut faire beaucoup mieux, c'est-à-dire faire pas seulement une réforme paramétrique, pour reprendre l'expression qu'on utilisait pour la réforme des retraites, c'est-à-dire de bouger tel ou tel curseur, mais une réforme systémique qui change radicalement notre manière de penser la transmission, en se plaçant non plus du côté, en regardant non pas qui transmet, mais qui hérite. Et avec des principes très simples, plus vous recevez, plus vous payez, peu importe de qui vous recevez, et quelle que soit votre situation, vous avez un capital de départ. Donc il y a des choses formidables à faire. Ma crainte est que rien ne se passe pour une raison très simple, c'est que les Français surestiment considérablement la réalité de la fiscalité de la transmission du capital. Natacha l'a dit, 85 à 90% des Français ne payent rien au moment des successions, et 9% seulement souhaitent qu'il y ait une augmentation de la fiscalité des successions.
France Inter, le grand face-à-face, Le duel.
Dans l'actualité aussi, le Japon qui commémorait jeudi le 10e anniversaire de la catastrophe de Fukushima, de cette triple catastrophe du 11 mars 2011, séisme, tsunami, accident nucléaire qui a traumatisé durablement la nation et qui a traumatisé bien au-delà du Japon jusqu'en Europe et dans d'autres pays. Natacha Polony.
Oui, je pense que cette catastrophe a laissé non seulement un traumatisme, mais a eu des conséquences majeures sur la vision que notamment les pays européens avaient de l'énergie nucléaire. Aujourd'hui sort un rapport qui explique qu'il n'y a pas eu de mort, pas dû de cancer après Fukushima. Je pense qu'il faut prendre ces questions-là avec des pincettes, puisque c'est le problème du nucléaire et qu'il faut le penser sur le temps long. Or, c'est en train, donc ce rapport qui a été publié est en train de devenir une sorte de slogan. Oui. Je pense qu'il faut rentrer un peu dans la complexité des choses, c'est-à-dire que les conséquences de Fukushima doivent se lire sur des centaines d'années, dans la mesure où il y a quand même des terres contaminées, il y a évidemment des conséquences majeures. Pour autant, la catastrophe de Fukushima a provoqué en Europe l'arrêt du nucléaire, des programmes nucléaires allemands, et oui, l'Allemagne a réouvert des centrales à charbon pour compenser la perte énergétique de la fermeture de ces centrales. Et c'est un recul en fait qui touche toute l'Europe, c'est-à-dire que les programmes nucléaires petit à petit se sont amenuisés alors qu'on construit des centrales nucléaires à peu près partout dans le monde et que la Chine est en train de devenir leader en la matière. Il y a donc quelque chose à penser. Pourquoi ? Parce que si vous lisez les rapports du GIEC, eh bien vous vous apercevez que la principale énergie décarbonée, avec tous les problèmes incommensurables qu'elle pose, c'est le nucléaire. Donc la question est de savoir comment on articule le nucléaire avec les énergies renouvelables, qui ne suffisent pas pour l'instant à permettre de combler nos besoins énergétiques. Je prends l'exemple de la Suède, qui cet hiver, la Suède qui est le pays d'Europe le plus décarboné et surtout le plus en pointe sur les énergies renouvelables, la Suède s'est retrouvée cet hiver totalement en insuffisance énergétique et a dû importer de l'énergie issue de centrales à charbon, ce qui est une absurdité totale. Donc il me semble que la question du nucléaire doit essayer d'être pensée non pas de façon radicale et idéologique, mais en cherchant à répondre à tous les problèmes que pose cette énergie, les problèmes de sécurité, les problèmes de déchets. Il y avait en France le projet Astrid, qui était l'idée d'un réacteur se nourrissant des déchets des centrales, oui, il a été arrêté. C'est aberrant. Et nous sommes en train de perdre des compétences qui nous permettraient, au contraire, d'améliorer notre capacité à régler les problèmes que pose cette énergie, qui, encore une fois, en pose énormément.
Gilles Finkelstein.
Oui, rapidement. On sort ce qui se passe, la commémoration de Fukushima, c'est l'occasion pour nous de repenser la question du nucléaire et de la mettre dans le débat public où elle est beaucoup trop peu. Nous sortons d'une décennie qui a été une décennie noire pour le nucléaire. Ce sont les conséquences de Fukushima, le recul de la place du nucléaire dans beaucoup de pays, l'enchérissement au moins à terme du coût du nucléaire, mais aussi d'événements qui se sont passés en dehors de Fukushima, les difficultés, les nouvelles générations de réacteurs, les progrès des énergies renouvelables dont les coûts ont baissé, et on a une sorte de renversement. Il y a quelques années, le nucléaire c'était une solution d'un point de vue économique, mais on regardait beaucoup le risque environnemental. Aujourd'hui, c'est une solution économique qui est plus concurrencée, mais c'est une solution environnementale par rapport aux défis qu'évoquait Natacha. Ça, c'est pour le passé. Si je dis un mot, et je termine par là, le futur, par ce siècle vert, pour reprendre la formule de Régis Debray, on est sans doute au début de la fin du nucléaire. C'est-à-dire la fin, parce que il y a sans doute la possibilité de s'en passer à terme, mais ce n'est que le début de la fin, au sens où nous avons besoin du nucléaire aujourd'hui, pour les raisons qu'a évoquées Natacha. Je m'arrête là, parce que je vois que Ali me fait de grands signes, mais
et que notre invité est entré en studio.
Mais ça sera bien qu'on y revienne un jour.